Et donc, pour se replonger dans tout cet épisode, je vous invite à relire ce texte. Actes chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Ça, c'est midi. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte, et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit « Voici, trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant, et Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit « Il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre qui était logé dans la maison de Simon Corroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, nous sommes tous devant Dieu » pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus, Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Voilà, selon texte, selon récit, pour rapporter ces événements extraordinaires qui se sont produits. Et c'est aussi des choses que l'on voit jour après jour, quand le peuple écoute la parole de Dieu, le peuple reçoit cette parole dans son cœur, il place son confiance, le Saint-Esprit descend dans leur cœur, et ils sont sauvés, scellés du Saint-Esprit, vivant une vie nouvelle, commençant une nouvelle existence. Mais ici, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'apôtre Pierre en particulier. Il a été confronté à des idées nouvelles. Et la pensée que j'aimerais développer ce matin, c'est quelle est notre réaction dans des pensées nouvelles? Est-ce que nous sommes ouverts ou nous sommes capables d'avoir des pensées nouvelles? Des choses qui peuvent bouleverser et transformer notre vie et notre existence. Nous sommes des hommes, et les hommes, par définition, sont des êtres d'habitude. Des hommes d'histoire, des hommes d'expérience, des hommes d'éducation. Et ces choses-là façonnent et modèlent notre esprit et notre manière de penser et notre compréhension des choses. Et parfois même, toutes nos actions sont modelées par un cadre qui nous est donné. Un exemple, l'industrie horlogère suisse est née à Genève au milieu du XVIe siècle. Ça, c'est le moment de la réforme. Le réformateur Jean Calvin, en bannissant le port des objets ornementaux, força les orfèvres et les autres joailliers de la place de Genève à se tourner vers un autre art, celui de l'horlogerie. Et à la fin du siècle, Genève avait déjà acquis une réputation d'excellence. Et c'est en 1601 que la première corporation d'horlogers du monde vit le jour sous le nom de la maîtrise des horlogers de Genève. Vous comprenez l'histoire de l'horlogerie suisse avec ça. Calvin est au cœur de ça parce qu'il voulait que tout le monde puisse assister au culte à la bonne heure. Alors il a fait installer des horloges partout dans Genève, de sorte que tout le monde pouvait venir au culte à l'heure. Ça peut nous amener à prendre aussi des bonnes réflexions. Il y avait aussi une horloge pour le prédicateur. Je vous rassure, il avait un sablier et il fallait avoir terminé quand le sablier était vide. J'ai essayé de respecter ces choses-là. Mais l'horlogerie suisse a été une industrie extraordinaire pour la Suisse et pour le monde entier. C'est eux, l'horlogerie suisse, qui a inventé la montre à secousse en 1770, c'est l'ancêtre de la montre automatique qui se remonte toute seule, la montre à remontoir en 1842, la montre à chronographe, la montre à calendrier perpétuel, si bien qu'au début du XXe siècle, elle étend sa suprématie sur le monde entier de l'horlogerie. En 1967, des ingénieurs suisses mettent au point la montre à quartz. Ça se fait à Neuchâtel. Donc toujours les Suisses, ils ont toujours une longueur d'avance. Ils ont présenté leur invention aux industriels, mais leur découverte était tellement surprenante. Leur idée était tellement différente du mécanisme traditionnel qu'ils n'ont pas vu et qu'ils n'ont pas cru dans la montre à quartz. À tel point qu'ils n'ont pas suffisamment protégé les brevets, et ce sont des Japonais et des Américains qui se sont emparés des brevets. L'industrie horlogère de la Suisse comptait 90 000 employés en 1970. Elle n'en comptait plus que 30 000 en 1984. elle avait complètement manqué le virage de l'électronique. Par la suite, elle a repris le dessus avec la Swatch, et elle est redevenue à l'heure actuelle, l'expression convient bien à la Suisse, le leader mondial de l'horlogerie. Qu'est-ce que je veux dire par cet exemple? Ce que nous voyons le mieux, c'est ce que nous nous attendons à voir. Ce que nous voyons le mieux, c'est ce que nous nous attendons à voir. Nous voyons toutes choses d'après un cadre. Une fenêtre plus ou moins étroite, elle a été façonnée par notre éducation, par notre instruction, par notre culture, par nos traditions, par nos expériences, et tout cela nous dicte notre comportement. Et nous ne voyons pas les choses qui sont en dehors de notre cadre. On appelle ça les paradigmes. Tout ce qui n'entre pas dans notre paradigme, nous n'en prenons pas compte. Nous ne le tenons pas en compte. On porte des œillères. Les œillères des Suisses leur ont coûté 60 000 emplois. Pierre a aussi des œillères. Il ne peut absolument pas voir la grande œuvre à accomplir. Il est incapable de considérer le champ missionnaire païen à cause de son cadre. Il faut dire qu'Israël avait beaucoup souffert à cause des nations païennes. Israël avait été victime de l'influence néfaste des païens. Il s'était laissé détourner de Dieu pour adorer des idoles de pierre et de bois et auxquelles ils avaient sacrifié leurs enfants. Ils avaient été déportés à Babylone au pied de... dans une nation païenne à cause de leur idolâtrie. À cette époque, Israël était occupé par les armées romaines. Jérusalem était foulée aux pieds par les nations. Il faut dire que l'image qu'ils avaient du Messie était aussi une image dans leur cadre, c'est-à-dire le Messie devait les affranchir de la puissance romaine. C'était cela qu'ils avaient en tête, et non pas un sauveur pour les païens. Ainsi, l'idée que les païens puissent venir à la foi en Jésus-Christ était tout bonnement inconcevable. Au contraire, l'idée d'avoir un contact avec des païens, c'était un sacrilège. Il n'était pas question de mettre les pieds chez les païens. Au verset 28, il est dit « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. » C'est inconcevable pour eux. Imaginez ce que pouvait représenter d'entrer chez un centenier romain. Ils ne voulaient aucun contact avec des païens. Ils avaient les Romains en horreur, puisque c'est eux qui les assujettissaient. Maintenant, un chef romain l'invite, mais c'était hallucinant pour lui, c'était impossible. Cette cohorte dite italienne, ça représentait tout ce qu'il y avait de plus romain à l'époque. En Jean 4, il fallait que Jésus passe par la Samarie. Et pendant que ses disciples faisaient quelques courses, il parle avec cette femme samaritaine, et puis elle croit en lui et court avertir toute la ville qu'elle a trouvé le Messie. Alors Jésus dit à ses disciples qui rentrent des courses, il dit au verset 35, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et que celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Qu'est-ce que c'est? La Samaritaine est partie dans la ville, elle est allée dire « J'ai trouvé le Messie !» Et tous les Samaritains descendent du village vers Jésus. Et les disciples sont là, et Jésus dit « Regardez, regardez !» Alors il y a des champs, oui. Vous dites « Il y a encore des champs, il y a encore 4 mois pour la moisson. » Mais regardez les Samaritains, ils descendent de partout. Et ils veulent connaître le message de l'Évangile. Et c'est ce qui va se passer. Il va rester là en Samarie quelque temps, et beaucoup vont connaître le Seigneur Jésus. « Nous savons, diront-ils, qu'il est le sauveur du monde. Nous portons des œillères comme Pierre. Elles nous empêchent de voir les champs qui blanchissent pour la moisson. Nous sommes bloqués par une tradition, toute évangélique qu'elle peut être, dans une éducation ou dans notre culture. Vous voyez, les Français, ils ne croiront jamais. Et on est bloqué là-dedans. Et si quelqu'un nous propose un changement, nous répondons, ça ne marchera jamais. Et pourquoi ? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Est-ce que c'est une réponse, ça ? Est-ce que parce qu'on a toujours fait comme ça, on doit toujours faire comme ça ? Est-ce que c'est juste de parler comme ça ? Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, en Angleterre, il y avait William Carré. Il était alors cordonnier. Il étudiait dans son atelier la Bible et les langues bibliques, hébreu et grec. Il s'est passionné pour le monde en fabriquant lui-même une map monde. Il a commencé à glaner des informations sur tous les peuples de la terre. Par la suite, il est devenu pasteur baptiste à Leicester. Lors d'une rencontre pastorale, il a évoqué le fait qu'il trouvait surprenant que les gens de leur région entendent pour la xième fois l'évangile, alors qu'un grand nombre de peuples ne l'avaient jamais entendu. On lui a répondu, « Jeune homme, asseyez-vous. Lorsque Dieu voudra convertir les païens, il le fera sans votre aide et sans la mienne. » Quelques années plus tard, il a écrit un livret rappelant la commission du Seigneur, en Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » L'expérience, il a rappelé l'expérience de l'Église primitive. Il a rappelé dans ce livret l'immensité des besoins des nations. Il était aussi instituteur, il était cordonnier, prédicateur, pasteur, et puis il était aussi instituteur. Il enseignait la géographie. Et ses élèves ont rapporté que quand il faisait son cours de géographie, qu'il montrait des nations, il prenait beaucoup de renseignements, donc il était au fait de toutes ces choses. Il présentait les peuples, les gens, et puis il soupirait et il disait « Et ils ne connaissent pas Jésus-Christ ». Et ils ne connaissent pas l'Évangile. Et ça le bouleversait au plus profond de son âme. Il a rappelé toutes ces choses-là. Il a essayé aussi de répondre aux objections en demandant la création d'une mission baptiste. Et après un puissant message sur Ésaïe 54, les versets 2 et 3, c'est là où Dieu dit « Étends les pieux, élargis l'espace de ta tente ». Il crée la première mission baptiste. Ça s'est passé chez une grand-mère. Lors d'une réunion, il y avait juste 12 personnes, et il y avait notamment John Ryland. C'était le fils du pasteur qui lui avait fait cette cinglante remarque. William Carré a été appelé le père de la mission moderne. Il est parti en Inde et il a fait un travail colossal. Il a traduit la Bible en 44 langues et dialectes. Aujourd'hui encore, dans le monde entier, on lit la Bible et on bénéficie du travail de cet homme. Oui, il y a des choses qui nous semblent en dehors de notre cadre, que l'on ne conçoit pas un instant. Et Pierre, il a ces choses-là. Il n'a aucunement l'intention d'aller chez les païens. Pierre, il a ses œillères. Et puis, ses œillères vont exploser. Et puis, il va commencer à voir les choses comme Dieu les voit. Il faut une intervention divine pour ça. Il faut vraiment une intervention dans le plus profond de notre cœur. Et l'intervention divine, c'est cette nappe contenant tous les animaux. Avec la parole de Dieu, ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Vous savez, la loi juive établissait des choses, des animaux purs et des animaux impurs. On avait le droit de manger que des animaux purs. Pierre, il avait respecté ça scrupuleusement. Et il n'avait mangé que des animaux purs toute sa vie. Et là, dans cette nappe, il y a des animaux impurs. Et Dieu lui dit, tue et mange. Ne regarde pas comme souillé ce que j'ai déclaré pur. Tue et mange. Non, Seigneur, ça ne marche jamais, ces deux mots-là ensemble. Hein. Non, Seigneur, normalement, on ne peut jamais dire ça. Mais il a répété ça plusieurs fois. Non, Seigneur, je... Et puis, à trois reprises, le Seigneur a ramené ces choses-là. Il faut encore l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur, et puis une révélation pour que Pierre saisisse le sens de tout cela et se rende annoncer l'Évangile chez les païens. Pierre devient un pionnier, il devient un visionnaire. Il entre chez les païens et il proclame l'Évangile. Il dit que Dieu lui a appris à ôter ses œillères. Hein, j'aime ce verset dans notre texte, verset « Il m'a appris à ne pas regarder hein, ». Verset 28 « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur ». Il a appris. Ça, c'est la plus belle chose qui soit. Il a appris, il est capable d'apprendre. Il y a de l'espérance si on est capable d'apprendre, si on est enseignable, si on peut ajouter quelque chose à notre connaissance, alors... Il y a de l'espoir. Il a appris à ôter ses œillères. Et il commence sa prédication en reconnaissant que Dieu ne fait pas de favoritisme. Verset 34. Verset 35. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et puis, encore un petit peu plus loin, il est dit, verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. C'est très fort dans la bouche de Pierre. Le Seigneur n'était que le Seigneur des Juifs. Mais là, il est le Seigneur de tous. Il termine son message au verset 43 en disant « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, quiconque, ça c'est un mot nouveau dans la bouche de Pierre, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et tous se convertissent sur le champ, et pourtant il n'est pas encore compris par ses pairs. Vous savez que William Carey n'a pas été compris tout de suite par ses pairs. Il a été rejeté, il a été l'empêcheur de tourner en rond, il a été le poil à gratter des églises bien établies en Angleterre. Et finalement, les autres vont le rejoindre dans sa vision. Au chapitre 11, dans toutes les explications qu'il donnera. Comment pouvons-nous voir comme Dieu voit? Et c'est cela qui nous intéresse ce matin. Je remarque une première chose, rapidement. Tout cela est arrivé alors que Pierre était en prière. Hein, au verset 9, il nous est dit, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Au chapitre 11 et au verset 5, il rapporte ces choses-là et il disait « J'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais. » Comment pouvons-nous voir comme Dieu voit? Eh bien, quand on cherche Dieu dans la prière, quand on cherche à comprendre sa volonté, quand on porte nos regards sur lui et sur son œuvre, alors on peut découvrir de nouvelles choses. Nos œillères peuvent tomber lorsque nos regards sont portés sur le Seigneur, pour qui rien n'est impossible, qui n'est pas limité par nos œuvres, par nos traditions. Il n'est pas contraint, notre Dieu. Il est capable d'agir d'une manière extraordinaire. L'Évangile rapporte toute cette histoire-là. Quand il a fallu sauver le monde, les hommes ont dit « Alors, il faut qu'on s'approche de Dieu. » Et ils ont essayé toutes sortes de manières pour s'approcher de Dieu, par des sacrifices, par leurs souffrances, par leurs supplications, par leur... Et rien n'y faisait. Et l'Évangile, il est venu en dehors du cadre de l'homme. Il est venu de l'extérieur. Christ a quitté sa gloire. Ça, c'est inconcevable. Le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, le créateur de l'univers, s'est fait homme. Il y a un cantique qui dit, né de la poussière, tu ne comprends pas un roi qui pardonne, un Dieu qui s'humilie. Tu ne comprends pas. Et pourquoi l'évangile peut-être est si difficile pour les hommes aujourd'hui à saisir, en tout cas dans notre pays, c'est parce que ça ne vient pas dans leur cadre. Leurs mérites ne sont pas tenus en compte. Et alors, eux, ils veulent s'approcher avec leurs mérites. Et tout l'évangile, c'est cela. Il nous porte vers d'autres, une autre vision. Et c'est pour cela que c'est dans la prière, dans la recherche de Dieu, en fixant nos pensées sur Jésus-Christ, sur son œuvre, sur notre Dieu, que les choses peuvent se faire. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que la conversion des païens n'était pas une vérité cachée dans les Écritures. Dieu n'a jamais abandonné les nations au profit d'Israël. À Abraham, il a dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité ». Et c'est cette promesse qu'il a répétée à Isaac, son fils, et à Jacob, son petit-fils. Et nous savons que cette postérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, d'après Galates chapitre 3, verset 16. Nous savons que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça, c'était déjà dans les Écritures, en Deutéronome au chapitre 10. Je lis juste quelques versets, 17 à 19. Il dit, « Car l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. » Vous aimerez l'étranger. Et donc, cette notion-là n'était pas étrangère aux Écritures. Dans le temple, il y avait un parvis pour que les étrangers puissent venir prier et adorer l'Éternel. Lorsque le roi Salomon a fait la dédicace du temple, en 1 Roi chapitre 8, au verset 41, il est dit « Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra dans un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, c'est le temple. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que je t'ai bâtie. » Dans cette maison, il y avait ce parvis. Et c'est dans ce parvis que le Seigneur a été amené à faire du ménage. Il a dit, la parole dit, et ça c'est, il cite Ésaïe, que ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est-à-dire tout cet espace pour les étrangers avait été envahi par les Juifs pour faire leur commerce dans le temple. Et c'est pour cela qu'il les a chassés. Donc, cette pensée-là était vraiment dans les Écritures, constamment. Jésus s'était lui-même rendu à l'étranger, dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il y avait eu cette femme syrophénicienne qui était venue le voir en lui disant « Seigneur, délivre ma fille, elle est possédée par un démon. » Et alors le Seigneur lui avait dit « Non, on ne donne pas du pain aux chiens. » Et elle avait répondu « Oui, mais les chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table des enfants. » Et le Seigneur a dit « J'ai pas vu une foi comme cette fois-là dans tout Israël. » Vous savez quoi ? Pierre, il était là. Il a entendu cette parole du Seigneur. Et puis, il a vu là, cette jeune femme être délivrée. Il a entendu, il était là, lorsque Jésus a dit « Allez par toutes les nations Il était là lorsqu'il a entendu le Seigneur dire « Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il était là. L'évangile de Jean rappelle au chapitre 3 les paroles de Jésus à Nicodème. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette pensée-là, c'était le monde, tout le cosmos, c'est-à-dire l'humanité entière organisée en familles, en tribus, en nations, tout ça. Dieu a tant aimé tout cela, tout ce monde. En Actes chapitre 8, les persécutions ont contraint les premiers chrétiens juifs à quitter Jérusalem et sont partis vers la Samarie. Pierre et Jean sont envoyés à Samarie. Et puis ils constatent les choses, ils voient ces choses, et ils voient le salut parvenir aux Samaritains, et il était là. Et malgré tout cela, Pierre ne peut pas voir la porte ouverte aux païens. Vous voyez combien les œillères sont efficaces. Elles nous cachent les évidences même de la parole de Dieu. Je crois que nous portons aussi des œillères, et que celles-ci ne peuvent tomber que si nous avons une lecture toute neuve, si je peux dire, des Écritures. On lit les Écritures, quelque part, avec une paire de lunettes. Et chaque passage que l'on lit, on le range dans nos tiroirs, dans notre cadre. Et on n'est pas capable de voir en dehors de notre cadre. Et c'est pour ça qu'il nous faut lire les Écritures avec, vous savez, peut-être le regard que vous aviez lorsque vous avez ouvert pour la première fois les Écritures. Et juste écouter là ce que dit la Bible et juste se laisser influencer par elle seule dans notre compréhension. Nous devons pouvoir argumenter nos choix, non pas par un argumentaire tiré de notre expérience, ou de nos traditions, ou de nos habitudes, mais de la parole de Dieu. C'est ce que Pierre ne parvenait pas à faire. Quand je suis arrivé comme pasteur, plusieurs étaient déjà là dans l'église. Le pasteur qui avait été avant moi, il était là 19 ans. Alors, forcément, il y avait des habitudes qui avaient été prises. Moi, je n'étais pas là. Puis, je n'étais pas capable de faire comme lui. Alors, forcément, j'ai essayé de changer et j'ai fait les choses différemment. Et combien de fois on est venu me voir en me disant « Mais on ne fait pas ça comme ça. » Et alors, je dis « Mais comment il faisait ?» Mais pourquoi on ne fait pas ça comme ça? Mais parce qu'on a toujours fait comme ça. Et voyez, la chose, c'est peut-être c'est biblique de le faire comme ça, mais c'est peut-être tout à fait biblique de le faire comme ça. Et on doit pouvoir justifier nos choix d'après ce que disent les Écritures. Et ça, c'est tellement difficile à transformer ces choses-là dans nos propres cœurs. Et c'est ce que Pierre, au départ, ne parvenait pas à faire, mais grâce à Dieu, par l'intervention du Saint-Esprit dans son cœur, par ce temps de prière dans lequel il était peut-être ouvert à la pensée de Dieu, eh bien, il a été convaincu. Une troisième remarque, il a fallu une intervention extérieure, celle de Dieu, pour que Pierre puisse voir au-delà de ses œillères. Je crois que la solution vient souvent des autres. Ceux qui ne sont pas soumis au même cadre que le nôtre. Lorsqu'on a acheté ce bâtiment en l'an 2000, pour l'église de Toulouse, j'avais imaginé faire notre cuisine dans la cour. Lorsque je me suis renseigné pour couvrir la cour, j'ai appris qu'on avait déjà atteint la surface constructible du terrain. Beaucoup d'autres travaux nous avaient occupés depuis des nombreux mois et on n'avait toujours pas de cuisine. Alors, ceux qui s'en souviennent, on allait manger à Asia Village, nos repas fraternels, ou des pique-niques. Mais ici, il n'y avait rien pour préparer. Et moi, je ne voyais pas de solution. Il était temps maintenant d'envisager quelque chose pour des repas fraternels, mais je ne voyais pas de solution puisque la cour n'était pas constructible. Un jour, un frère est venu me voir, il va se reconnaître, et il m'a dit, « Bon, Vincent, il faut vraiment qu'on construise une cuisine. » Je dis, « Mais oui, mais c'est pas constructible !» Le frère m'a dit, « Mais on n'a qu'à la faire là. » Et vous savez, là, quand il a dit ces mots-là, mon cadre a explosé. Mes œillères ont volé en éclats. Mais je dis, mais évidemment, t'as raison. Faisons la cuisine ici. Et voilà, elle a été faite. Et heureusement que ce frère, il est venu me voir et qu'il n'avait pas mon paradigme, qu'il n'avait pas mon cadre, que lui, il pouvait voir en dehors de mon cadre. Parce que sinon, on n'aurait toujours pas de cuisine. Vous savez pourquoi il n'y avait pas mon cadre? Parce qu'il n'avait pas investi comme moi dans mon cadre. Moi, j'avais passé des heures à faire des croquis. J'avais aménagé toute la cuisine déjà, mais dans la cour. Et c'était super chouette. Et en fait, voyez-vous, tout cet investissement que j'avais eu, ça m'empêchait de voir d'autres solutions. Et lui, il a fait voler en éclats mes contraintes que je m'étais fixées. C'est pourquoi je crois que c'est essentiel de pouvoir partager nos fardeaux, nos besoins avec des frères qui n'ont pas notre cadre, parce que la solution vient souvent d'un regard extérieur. Je bénis Dieu pour le privilège d'avoir pu visiter des églises ou d'avoir pu visiter d'autres pays, que ce soit Haïti, que ce soit le Venezuela, ou la Russie, d'autres endroits, ou les États-Unis, parce que ça m'ouvre un cadre. Ça élargit mon système de pensée. Et je prie que, et c'est notre prière déjà depuis longtemps, hein, avec beaucoup ici, que Dieu nous ouvre les yeux et ouvre notre intelligence, notre compréhension pour savoir ce qu'il convient d'accomplir dans l'année à venir. On partagera certaines choses cet après-midi par rapport à cela, par rapport à la vision pour l'Église. Mais je termine avec quelques questions. Je suis conscient d'avoir soulevé des choses sans apporter de solution véritable. Mais voilà deux questions que j'aimerais vous laisser. Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter des idées nouvelles? Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter des idées nouvelles dans votre vie? Il y a un confort dans la tradition. On a tous déjà prononcé ces mots... Mais on a toujours fait comme ça. Et on aime bien faire toujours comme ça. Regardez où vous vous asseyez. Vous vous asseyez toujours à la même place. Pourquoi ? C'est les mêmes chaises. Mais pourquoi ? C'est difficile à expliquer ça. Mais ça montre juste, c'est notre cadre. Et ce matin, quand vous êtes venu, est-ce qu'il y avait quelqu'un assis à votre chaise? sur votre chaise. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est ma chaise. Non mais, on est capable de raisonner comme ça? Qu'est-ce qui nous empêche d'accepter des idées nouvelles? Deuxième question, qu'est-ce qui aujourd'hui semble impossible? Qu'est-ce qui aujourd'hui semble impossible dans votre vie? Réfléchissez à la dernière fois que vous avez dit « Non, mais c'est pas possible. Non, mais je suis désolé, mais je peux pas, là. » Réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Et réfléchissez, si ça devenait possible, ça transformerait complètement votre vie personnelle, votre vie d'église, votre relation aux frères, aux sœurs de l'église, votre ministère. Ça transformerait votre vie de famille. Ça transformerait votre relation à Jésus-Christ. Et il y a un moment, il faut peut-être se poser la question, pourquoi c'est impossible? Est-ce que c'est simplement impossible parce que vous avez tellement investi dans votre cadre? Vous avez tellement fait de croquis? Tellement passé d'heures, tellement réfléchi à la chose pour que ça se passe comme ça, ça reste impossible. Est-ce que vous préférez votre cadre à la volonté ou au dessein de Dieu? Est-ce que vous préférez votre cadre, votre paradigme au dessein de Dieu pour votre vie? Et je crois que, quel que soit le paradigme ou quel que soit le cadre dans lequel on vit, il faut être convaincu d'une chose, c'est que le cadre de Dieu est plus large que le nôtre, et surtout, que le dessein de Dieu est parfait. Tous nos projets sont minables comparés au dessein merveilleux de notre Dieu. Et parfois, on tient à un truc minable juste parce qu'on y a investi tellement de temps, tellement d'heures, tellement de réflexion. Et Dieu nous dit, mais j'ai quelque chose de plus grand pour toi. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. J'ai quelque chose d'exaltant pour toi, quelque chose qui est glorieux pour mon nom. Et je veux le faire connaître. Repensez à Pierre. Imaginez, Pierre, il aurait parcouru Jérusalem et la Judée, annonçant l'évangile à tout ce monde-là, et il n'aurait jamais vu le moindre païen venir à Jésus-Christ. Il n'aurait jamais considéré les 99,9% du reste de la population mondiale avec son évangile. Voyez la chose, comment c'est plus glorieux. Et quand lui a compris cela, et quand il a raconté cela aux frères de Jérusalem, qui n'étaient pas contents au départ qu'il soit allé dans la maison de Corneille, ils se sont calmés, ils ont glorifié Dieu, et ils ont dit, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. C'était quelque chose d'extraordinaire pour eux. Et ils ont glorifié Dieu pour cela. Alors que Dieu nous aide dans l'Église à lire les Écritures pour les Écritures elles-mêmes. D'enlever toute lunette déformante des Écritures. D'avoir une relation sincère dans la prière, les yeux fixés sur notre Dieu. Et puis se laisser interpeller par ce que d'autres font. Et pour comprendre que Dieu peut agir différemment selon les nations, selon les pays. Et peut-être qu'eux peuvent nous apporter la solution pour notre vie personnelle, pour notre vie d'Église, pour l'évangélisation de notre pays. Alors que Dieu nous éclaire, nous secoue, nous aide. Prions.